tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement ? Oui. Bon. Je vous propose qu'on prie, qu'on incline nos têtes devant le Seigneur. Bon Seigneur, nous te demandons ta grâce et ta bénédiction. Oui, que tu bénisses ta parole et que tu viennes à mon secours pour parler comme il le faut, avec fidélité. Que ta parole puisse toucher les cœurs et être mise en pratique par chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je désire parler avec vous ce matin d'un sujet qui est abondamment évoqué tout au long de la Bible, mais dont on ne parle pas forcément souvent. Ce sujet, c'est l'adultère. Alors, certains vont penser que c'est un sujet qui est peut-être un peu étrange pour être évoqué un dimanche matin, et un sujet qui ne devrait pas concerner les chrétiens. Mais le Seigneur nous en parle dans sa parole, et comme c'est bien quelque chose qui concerne l'Église, je propose qu'on regarde ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. L'adultère, c'est le fait d'être infidèle. J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse et il dit que c'est la violation du devoir de fidélité entre époux. La violation du devoir de fidélité entre époux. Donc lorsque deux personnes s'unissent dans les fiançailles puis le mariage, elles vont se promettre l'une à l'autre le secours et la fidélité. Et si l'une des deux ne respecte pas son engagement, c'est alors qu'elle est appelée adultère. Et il arrive aux chrétiens d'être adultères. Il arrive aux chrétiens d'être adultères envers leur conjoint. Et il arrive aux chrétiens d'être adultères envers Dieu. Et c'est surtout de cet aspect que je souhaite parler avec vous ce matin. Parce qu'il arrive aux chrétiens de se détourner de Dieu. Ça arrive des fois plus ou moins longtemps, plus ou moins gravement aussi. Et on sait que l'Église, elle est appelée l'épouse de Christ. Alors si nous sommes sauvés, on a été rachetés par Christ, et en même temps on s'est donné à lui volontairement, pour lui appartenir et pour le servir. Et tous les croyants vont former ensemble cette épouse du Seigneur Jésus. Et je pose la question, quel époux ne s'attend pas à ce que son épouse soit entièrement fidèle ? Je dis entièrement parce que on n'imaginerait pas qu'un mari soit fidèle seulement de temps en temps à sa femme, ni qu'une femme soit seulement un peu fidèle à son mari. Et ce thème de la fidélité, on le retrouve dans bien des domaines de la vie. Si moi je travaille dans une banque et je rencontre des clients, et parfois ces clients ils me disent avec fierté, je suis client chez vous depuis, je sais pas, 1975, c'est sûr ça fait longtemps, c'est un bel exemple de fidélité. Et il y en a d'autres au contraire, qui avouent, avec plus ou moins de gêne, ah, vous savez, moi, je ne suis pas très fidèle. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne sont pas fidèles du tout. Et que si une autre banque va leur faire une proposition qui est intéressante, ils vont y aller tout de suite, sans tenir compte de la banque dans laquelle ils sont actuellement. Ils ne vont pas hésiter à quitter l'une pour aller voir l'autre. Ça nous montre qu'on ne peut pas être juste un peu fidèle. Ça fait partie des absolus de la vie chrétienne. C'est comme le salut. On ne peut pas être presque sauvé, sinon on est complètement perdu. Et les Écritures regorgent d'exemples de personnes et de peuples qui se sont illustrés par leur infidélité vis-à-vis de Dieu. Si on trouve autant d'exemples, c'est parce que l'adultère, c'est une manifestation du péché. Et que l'on trouve le péché de partout. Quelle que soit sa forme, le péché, il a toujours une constante. Il va éloigner de Dieu. Il va creuser un abîme entre l'inconverti et Dieu. Et il va éloigner le cœur et les pensées du chrétien de leur sauveur. Le péché, il va pousser le chrétien à être indifférent et infidèle à Dieu. Je propose de prendre deux exemples. Le premier, c'est facile, c'est celui d'Israël. Israël, c'est le peuple qui est élu, qui a été choisie par Dieu pour lui appartenir et pour le servir. Et quelque temps après sa sortie d'Égypte, Dieu conduit le peuple dans le désert et il appelle Moïse à monter sur la montagne. Et c'est alors que le peuple a demandé à Aaron de lui fabriquer une idole. Et à ce moment-là, Dieu s'adresse à Moïse sur la montagne et il lui dit, on trouve ça dans Exode 32, « Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et pourtant, tout ce peuple avait vu la mer Rouge. Ils avaient vu même les plaies en Égypte. Ils avaient vu la mer Rouge fendue. Ils étaient passés au travers de la mer. Ils avaient vu la mer se refermer sur l'armée de Pharaon. Ils avaient aussi reçu le commandement de ne pas se faire d'image de Dieu. Aucune image taillée. Mais ils se sont promptement écartés. Ça veut dire que ça allait vite. Et pour nous, ça nous rappelle qu'il en faut peu pour glisser dans l'adultère et dans l'infidélité. À vrai dire, il suffit d'une pensée ou d'un regard. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 5. Il dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Dans le livre des Actes, au chapitre 7, on trouve le discours qu'Étienne a prononcé devant le Sanhédrin, et il emploie une expression qui est intéressante quand il parle de cet épisode d'Israël au désert qui a fait le veau d'or. Et il dit « Nos pères ne voulurent pas obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. C'est comme si le peuple avait fait demi-tour dans son cœur. Et quelques années plus tard, Dieu leur a fait traverser le désert, il les a fait errer dans le désert pendant longtemps. Ils entrent dans le pays de la promesse sous la conduite de Josué, puis Josué meurt, et la dégringolade va commencer. Israël va abandonner l'Éternel, alors que l'Éternel les a soutenus pendant 40 ans au désert. Et pendant toute la période des juges, on va voir qu'Israël ne va pas cesser d'abandonner sans cesse. Ils vont revenir, mais ils vont sans cesse à nouveau l'abandonner. Et ils vont l'abandonner pourquoi ? Pour des idoles. Parce que le culte des idoles plaît davantage à Israël que le culte de l'Éternel. Ils préfèrent les statues, ils préfèrent les sacrifices d'enfants et les fêtes orgiaques, la prostitution sacrée et toutes les fêtes qui sont organisées en l'honneur des divinités païennes. Alors au lieu d'être fidèles à ce Dieu qui les a si fidèlement soutenus, qui leur a fait du bien, pendant toutes ces années, ils vont tourner leur cœur et leurs pensées vers ce qui n'est pas Dieu. Ça, c'était l'exemple d'Israël. C'était un cas, on va dire, général d'un peuple entier. Mais il y a aussi des cas particuliers dans la Bible. J'ai choisi, moi, de vous parler de Salomon. Salomon, c'était un grand roi. Le plus grand roi d'Israël. Dieu lui a donné une sagesse inégalée. Il lui a donné des richesses extraordinaires. C'est même lui qui a bâti le temple de l'Éternel. On peut dire qu'il a bien commencé. Mais il est écrit dans le premier livre des rois au chapitre 11 que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hessiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dans les deux cas, Israël, le cas général, et Salomon, le cas particulier, on voit que la fidélité, c'est avant tout une histoire de cœur. Alors je pose une question. Où est mon cœur ce matin? Vers qui ou vers quoi est-ce qu'il se tourne? Vers qui est-ce qu'il se dirige? À quoi est-ce qu'il pense? Quoi est-ce que je pense ce matin? Salomon, il avait laissé un interdit subsister dans sa vie. Dieu avait dit, vous n'épouserez pas de femmes étrangères. Salomon, il en a eu beaucoup. Alors petit à petit, il s'est détourné de Dieu, alors qu'il était zélé au départ. Dieu avait interdit les alliances avec les peuples étrangers et Salomon n'a pas obéi. Alors il s'est laissé peu à peu entraîner sur des pentes dangereuses. Parce que Dieu est un Dieu qui réclame une fidélité complète. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors on voit bien que naturellement, notre cœur, il ne nous pousse pas vers le Seigneur. Il nous pousse à aimer ce qui n'est pas Dieu. Et à chaque fois qu'un peuple ou qu'une personne a été infidèle à Dieu, ça s'est traduit de la même manière. Il y a toujours eu de l'idolâtrie. Israël et Salomon, ils ont vénéré des dieux étrangers. Nous, aujourd'hui, on se prosterne peut-être pas devant Baal, Astarté, Moloch ou je ne sais quelle divinité païenne, comme Israël a pu le faire. Mais on se prosterne peut-être, on vénère peut-être Mammon, le dieu de l'argent, ou le dieu de la mode, ou celui du confort auquel on va sacrifier toutes nos économies. Peut-être encore qu'on entretient une relation étroite avec le dieu du sexe ou de la pornographie, ou celui de la paresse, ou au contraire celui du travail, et qu'on finit par délaisser Dieu. Parce que ces choses, elles exercent sur nous un attrait si fort, une emprise tellement importante qu'on ne peut pas y renoncer. Et peut-être même que jusque-là, on a trouvé normal de s'attacher à ces choses parce que dans notre cœur, les valeurs du monde ont remplacé les valeurs de Dieu. Salomon, il a certainement fini par trouver normal d'avoir autant d'épouses et autant d'épouses étrangères. Au final, sa conscience ne le reprenait peut-être même plus. Pourtant, il en avait plus de 1000. Et nous aussi, on peut finir par trouver normal de passer plus de temps à regarder la télé qu'à lire la parole de Dieu. On peut facilement finir par accepter le compromis avec les valeurs de Dieu, alors que Dieu a dit « Vous serez saints ». Car je suis saint. Et on le fait pour ne pas être la risée du monde. Jacques, dans son épître, il s'adresse à des chrétiens et il leur dit ces paroles assez fortes, très fortes même. Il leur dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ces paroles, elles sont fortes, mais elles sont vraies. Parfois, lorsqu'on est tenté, on se dit qu'on va céder, mais juste une fois. C'est vrai, c'est pas grave si c'est juste une fois. Mais demandez à votre mari ou à votre femme s'il accepterait ou si elle accepterait que vous soyez infidèle juste une fois. La Bible, elle nous dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Cette parole aussi, elle peut paraître dure. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je déteste cette idée d'être esclave. Alors on cherche à se déculpabiliser et on se dit qu'après tout, personne ne le verra, personne n'en saura jamais rien. Et c'est vrai. Il est tout à fait possible que personne ne sache jamais rien de nos faiblesses et de nos infidélités. Sauf Dieu. Parce que Dieu voit tout. Il sait tout, il connaît tout. Mais surtout, il ne veut pas qu'on ajoute l'hypocrisie à l'infidélité. Parce que cacher son péché, faire comme si de rien n'était, c'est être hypocrite. À un moment de son histoire, Israël avait une fois de plus délaissé Dieu. Mais pour sauver les apparences, il continuait à servir dans le temple. Ils offraient des sacrifices, ils brûlaient de l'encens, ils célébraient les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Mais à ce moment-là, Dieu leur a dit par Ésaïe, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu sait si nos cœurs se tournent vers lui ou s'ils se refroidissent. Il le sait où que nous soyons. Alors oui, il faut faire ce constat que notre cœur, il est adultère par nature. Et une fois que ce constat est fait, on peut voir comment Dieu traite le problème. Comment est-ce que Dieu a traité Israël quand le peuple le trompait? Alors bien sûr, il y a eu des châtiments sévères, notamment les invasions ennemies et la déportation. Mais bien avant ça, Dieu, il a d'abord parlé à son peuple. Il ne s'est pas tu. Il n'a pas gardé le silence, il n'a pas fait comme si de rien n'était. Il ne s'est pas dit que de toute manière, lui, il était dans son bon droit et que c'était le peuple qui était en tort et qu'il n'avait qu'à revenir. Ça, ce n'est pas le raisonnement de Dieu, ça, ce serait plutôt le nôtre quand on s'estime trompé et qu'on est blessé. Ça me rappelle l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée un jour et qui m'a raconté son histoire. Elle s'était disputée avec son fils et elle ne le voyait plus depuis des années. Cette dispute, ils avaient dû se dire, je ne sais pas exactement, mais des choses très blessantes. Et cette dame était vraiment très amère à la suite de cette querelle. Mais elle disait que de toute manière, c'était à son fils de revenir, parce que c'est lui qui était en tort, que c'était à lui de demander pardon, et que de toute manière, même s'il revenait, il allait voir, elle allait lui dire ses quatre vérités. Moi, j'aurais été à la place de son fils, j'aurais pas du tout eu envie de revenir. Mais Dieu, lui, il n'agit pas comme nous. Il va d'abord parler au cœur de son peuple et le ramener vers lui. Il y a un livre de la Bible qui nous parle de ça. C'est le livre d'Osée. Et dans ce livre, Dieu demande à son prophète quelque chose d'étonnant. Il lui demande d'aller épouser une femme adultère. De cette femme, Osée, il va avoir des enfants. Et pendant un temps, il va vivre heureux avec sa famille, avant que sa femme parte vivre avec d'autres hommes. Dieu fait ça pour montrer une parabole vivante à son peuple, pour essayer de le secouer un peu et de réveiller sa conscience qui est complètement endormie, parce que le peuple a vécu un temps avec Dieu et puis il est retourné à ses idoles. Alors pour réveiller son peuple, pour secouer sa conscience, Dieu lui dit dans Osée 2,16, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et ça arrive que Dieu nous amène au désert, qui nous place dans des circonstances difficiles, qui nous mettent à sec, simplement pour pouvoir nous parler. Et pour qu'on ressente ce besoin de revenir à lui. Ça, c'est la première chose. Dieu ne se tait pas. Il va chercher son peuple. La deuxième chose, c'est que Dieu patiente. Il patiente beaucoup. Il patiente longtemps. Et on le voit parce que un siècle à peu près après Osée, même un peu plus d'un siècle, la situation elle ne s'est pas améliorée du tout. Israël a persévéré dans l'idolâtrie. Ils ne se sont pas détournés le moins du monde. Et Dieu envoie un autre prophète. Il envoie Jérémie pour parler à son peuple. Et on voit au chapitre 3 de Jérémie des paroles que Dieu adresse à son peuple. Ce sont des paroles touchantes. Jérémie 3, versets 12 et 13, c'est Dieu qui crie ces paroles. Il dit « Reviens, infidèle Israël, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé, çà et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Ces paroles, elles m'ont beaucoup touché, parce qu'on dirait vraiment qu'elles transmettent la souffrance que Dieu a. Et cette souffrance qui le pousse à supplier son peuple de revenir. Et Dieu souffre parce qu'il n'aime pas l'infidélité. Il souffre des infidélités de son peuple parce que Dieu aime son peuple jusqu'à la jalousie. On retrouve même ça dans le Nouveau Testament, quand Paul dit aux Corinthiens « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et même après toutes ces années d'infidélité, Dieu veut quand même pardonner. Il veut quand même faire grâce parce qu'il prend plaisir à la miséricorde et qu'il aime pardonner et restaurer son peuple. Le Seigneur Jésus, lui-même, s'est retrouvé confronté à une situation d'adultère. Un jour, des pharisiens ont amené devant lui une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. On peut lire cela dans Jean 8. Jean 8, à partir du verset 1, où il est dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Beaucoup font remarquer que l'homme avec qui elle a commis cet adultère n'est pas là. Mais cette femme adultère qui est là, qui est seule devant le Sauveur, elle est là pour nous montrer que c'est devant Jésus seul qu'on obtient le pardon pour nos infidélités. Cette femme adultère, c'est aussi chaque chrétien qui, à un moment de sa vie, peut se retrouver rattrapé par ses actes et accusé par sa conscience ou par des frères et sœurs même. Alors un face-à-face avec Jésus est nécessaire à ce moment-là. Et Jésus, qui n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver, il dit à cette femme qui ne peut pas nier sa faute, il dit « Je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. » Nous non plus, nous ne pouvons pas nier nos fautes. Mais on peut venir à Jésus. Et le Seigneur ne va pas nous dire « Mais non, mon petit, c'est pas grave. » Le Seigneur, il n'agit pas comme ça. Il ne va pas minimiser la gravité de nos actes. Mais il est là pour nous relever avec patience, avec amour et avec douceur. Il va nous apprendre à lever les yeux vers lui et à compter sur ses promesses. Regardez avec quelle subtilité il a restauré Pierre après que celui-ci l'a renié 3 fois. Pas une ni deux, mais 3 fois. Et pas sur 3 jours, en l'espace de peut-être 1 heure. Par 3 fois, Jésus va lui demander « M'aimes-tu ? » Il ne va pas l'accabler de reproches, mais il ne va pas faire semblant d'ignorer non plus. Il ne va pas ignorer. Et Pierre va très bien comprendre que le Seigneur lui parle de ça. Alors, je parlais des promesses du Seigneur sur lesquelles on peut s'appuyer. Il y en a plusieurs. Écoutez celle-ci. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. La promesse du pardon, elle est là pour tous ceux qui désirent s'appuyer dessus. Elle a été faite par le Dieu qui ne ment pas, par ce Dieu qui prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Elle a été faite par un Dieu qui demeure fidèle, même si nous sommes infidèles. Alors que faire ? Peut-être que l'on s'est éloigné de Dieu dans notre cœur ou dans nos actes. Peut-être qu'on est actuellement dans ce désert dans lequel Dieu nous a conduits pour parler cœur à cœur avec nous. Peut-être encore qu'on est accablé par de nombreuses chutes, de nombreux péchés, qu'on n'ose pas revenir au Seigneur. Je propose de lire ce que dit le Seigneur dans Joël, au chapitre 2, versets 12 et 13. Joël 2, versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Maintenant encore, revenez à l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour revenir à Dieu. Et on peut revenir à lui de tout notre cœur parce que Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Que faire d'autre ? Revenir au Seigneur, parce que le Seigneur cherche ses brebis. Il dit que s'il y en a une qui s'égare, il part à sa recherche jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Il faut faire comme David qui a dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel » et il a ajouté ensuite « Et tu as effacé la peine de mon péché ». Et si le père du fils prodigue l'a accueilli avec bienveillance, notre Père Céleste nous fera aussi bon accueil. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Romains 2, verset 4. Il est dit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et je me souviens que lorsque j'étais enfant, je craignais beaucoup mon père. Et quand j'avais mal agi, je n'osais pas revenir vers lui. J'allais jamais le voir par peur de sa réaction. Et ma maman, elle souffrait de cette situation. Elle aurait aimé que j'aille voir mon père. Et elle me disait, mais tu peux y aller, vas-y. Et moi, j'avais vraiment peur et je n'osais pas y aller. Mais il est écrit que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Ça signifie que Dieu attend à bras ouverts celui qui veut venir à lui de tout son cœur et qui se repent de ses fautes. Le fils prodigue, quand il est revenu à son père, il a dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et son père l'a accueilli les bras ouverts. Il n'a pas entendu un seul reproche. Pas un seul reproche. Simplement des bras ouverts et un cœur qui était prêt à pardonner et à restaurer les relations qui avaient été brisées. Le père, il a même pris les devants, il a couru au devant de son fils qui revenait. Lorsqu'il a pardonné la femme adultère, Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus ». Lorsqu'Osée est allé rechercher sa femme qui avait été infidèle et qu'il est allé la racheter à ses amants, il lui a dit « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution ». Dieu attend de son Église qu'elle lui reste attachée. Et c'est ça la piété, c'est être attaché à Dieu. C'est l'aimer comme une épouse aime son mari. C'est passer du temps avec Dieu, parce que Dieu nous aime. C'est lire sa parole. C'est passer du temps dans la prière. Et c'est pour ça qu'il nous fait grâce. Tout à l'heure, Une sœur a lu ce verset de Tite qui dit que la grâce de Dieu a été manifestée, qu'elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est pour ça que Dieu nous fait grâce, pour nous apprendre à revenir à lui sans cesse quand nous avons péché. Il veut qu'on lui confesse nos péchés, nos infidélités, et qu'on lui demande son secours pour toutes choses, parce que Dieu sait combien nous sommes faibles, et il sait que sans lui, on ne peut rien faire. Alors s'attacher à Dieu, c'est aussi ôter de nos vies ce qui lui déplaît, c'est abandonner tout péché connu, et c'est chercher les choses d'en haut. Vois ça dans Colossiens 3, il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Enfin, et je terminerai avec ça, revenir à Dieu, c'est aussi lui consacrer nos vies. Lorsque deux personnes se marient, elles s'engagent à rester l'une auprès de l'autre pour toujours. Elles s'engagent à vivre l'une pour l'autre, à prendre soin l'une de l'autre pour que leur union soit un succès. Et c'est alors que leur vie va changer radicalement. Célibataires, elles s'occupaient chacune de leurs propres affaires. Elles n'avaient que de leur propre petite personne à s'occuper. Mais une fois qu'on est marié, les intérêts de celui qu'on aime vont progressivement passer au premier plan. On s'attache à faire plaisir à celui qu'on aime. On prend soin de lui ou on prend soin d'elle. Qu'il puisse en être ainsi dans notre relation avec le Seigneur. Et qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen.